un podcast France Culture.
Le revers de la médaille, une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Somaya Dabesh et proposée par Les Pieds sur Terre. Tout de suite, deuxième épisode, les athlètes sont des bons élèves comme les autres.
Coucou Adila, ça y est, je vais avoir le temps de te parler un petit peu de mes aventures jusque-là. Donc l'endroit où...
Yona Egui, la lanceuse de javelot que j'ai décidé de suivre, vient d'arriver en Nouvelle-Calédonie. C'est pour avoir accès aux compétitions qui lui permettront, selon elle, d'être suffisamment bien classée pour avoir accès aux Jeux Olympiques.
J'ai eu 3 escales en tout pour arriver jusqu'à Nouméa. En fait, j'ai pris le vol le moins cher et c'est pour ça qu'il est aussi long. J'ai mis 40 heures en tout pour faire Helsinki-Nouméa. En ce qui concerne mon état, je suis ni stressée, ni excitée, ni fatiguée. Je suis quand même assez calme. En fait, c'est comme si ça shootait un peu au temps de voyage. Je me sens curieuse de voir ce qui va m'arriver à Nouméa, comment est-ce que ça va se passer.
C'est quand même une drôle d'idée, à 23 ans, de casser sa tirelire pour partir s'entraîner à l'autre bout de la planète avec des inconnus. Et c'est pas banal non plus de travailler de nuit pour s'entraîner le jour, comme Frédéric, l'autre athlète que j'accompagne. D'autant que Fred, comme Yona, est dans une période d'entraînement plus intense que technique. Comme les sélections pour les JO n'auront lieu que dans plusieurs mois, Fred et Yona ne craignent pas encore de se fatiguer. Qu'est-ce qui pousse les athlètes à courir après les médailles ? À la fin du premier trimestre du CE2, j'ai été deuxième de ma classe et j'ai pleuré pendant une soirée entière.
Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, moi.
J'avais toujours été la première jusque-là et je n'avais jamais envisagé qu'il puisse en être autrement. Heureusement, mes parents, magnanimes, ont continué de m'aimer malgré cet échec et je m'en suis remise. Autant vous dire que nous n'avons jamais pensé, ni eux, ni moi, à remettre en question le système des notes et des évaluations. Bon, je vous rassure, j'ai depuis bien longtemps perdu ma place de première de la classe. Mais j'en ai conservé la mentalité. J'en ai honte, mais quand je sors un podcast, je surveille chaque jour son classement dans les applis. À l'heure où vous écoutez celui-ci, c'est sans doute ce que je suis en train de faire. Et si j'ai moins de 3T dans Télérama, j'ai de l'herpès. C'est vrai, c'est ma névrose. Mais elle est très banale dans un monde où ce qui ne s'évalue pas n'existe pas. Où on nous exhorte à devenir des premiers de cordée. En fait, on est tous programmés pour viser la première place.
Ça, c'est une certitude. J'ai toujours que j'étais moins fatigué quand j'étais banquier. Assis au bureau, on a la clim, la fatigue physique elle est un peu moindre quand même, clairement. Là, de faire de la mise en rayon, de décharger des camions, des semi-remorques tous les matins à 4h du matin, oui, c'est clairement pas ce qu'il y a de mieux, quoi.
Frédéric a perdu son boulot à la banque postale quand il a fait une pause dans sa carrière de lanceur de poids. Car c'était un poste réservé aux athlètes. En revenant à la compétition, il a fait le choix de prendre un boulot de nuit pour pouvoir s'entraîner la journée. Et j'ai découvert qu'il faisait de la réception de livraison dans un supermarché. Et franchement, à 6h du matin chez Grand Frais, on ne se sent pas vraiment entre winners.
Il y a eu combien de palettes ce matin ?
5.
Ah oui, c'était
cool.
Ouais.
Soft. On dit 300 kilos palettes, non ?
Une palette déjà, elle-même, elle doit peser, ouais.
Je vais dire une demi-tonne, moi, sur par palette au moins. Il y a pas mal de PB, de pommes de terre, des trucs, ça pèse lourd.
Ouais. 400-500.
On est pas mal. Pas trop mal. On se met du scotch sur les pouces, c'est très important ça. Que là j'ai des crevasses, laisse tomber.
Eh oui.
En resserre de rouge, il n'y a plus rien en resserre de fruits. Myrtille, j'en ai vu pas mal hier, mais je ne les ai pas vus ce matin.
Ouais, c'est pour moi ce que...
Ouais, mais il n'y en avait plus d'hier.
Si.
Toutes les bonnes choses en fonction, vous savez quoi ?
J'ai l'impression que t'as forci depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ouais, c'est possible ou pas ?
Oui.
C'est possible parce que. Alors, je me suis pas pesé parce que, honnêtement, je devais être autour de 116, 117 kilos. Et là, je pense que j'ai repassé les 120. Donc, malgré tout, ouais, 5-6 kilos d'un coup en 10-15 jours, ça. Mais c'est l'entraînement, en fait. J'ai eu faim. J'ai fait que de manger, quoi. Ah ouais, ça m'a creusé, quoi. Pour donner une idée, c'est que la dernière fois, quand on s'est fait plaisir, là, on est rentré un peu tard, on s'est fait livrer des pizzas. Je crois que j'ai mangé 3 pizzas.
Le lancer de poids, c'est un sport qui a beaucoup évolué ces dernières années.
Ouais, ah oui, totalement. Je trouve pas que les mecs lancent mieux aujourd'hui qu'avant, mais la récupération, les soins, les compléments alimentaires, le suivi médical, enfin tout ça, ça par contre, on a évolué et c'est impressionnant. Et la différence, c'est que nous, en France, là-dessus, on n'a pas trop évolué, en fait. Alors, c'est pas qu'on n'a pas évolué, c'est qu'on n'a pas mis les moyens pour.
En réalité, la principale difficulté de Frédéric, c'est qu'il est obligé de travailler pour gagner sa vie, alors que d'autres athlètes peuvent se consacrer à 100% à leur entraînement. En ça, il rejoint un peu la tradition des Jeux Olympiques, qui ont longtemps été réservés aux athlètes amateurs.
Victoire. Victoire sur les Polonais. Victoire sur les Soviétiques. Victoire sur les Allemands. Victoire sur les Italiens.
Jusqu'aux années 80, pour concourir aux JO, vous n'aviez pas le droit de gagner votre vie en pratiquant votre sport. En réalité, c'était un héritage d'une époque où le sport était un loisir réservé aux riches. Ce n'est qu'au fil du XXe siècle que le sport est devenu une pratique populaire et qu'on a vu apparaître des athlètes issus du monde ouvrier, qui, eux, avaient besoin de gagner leur vie. C'est le cas de Claude Picmal, qui a gagné, tenez-vous bien, non pas une, mais deux médailles olympiques avec ses camarades du relais 4x100 mètres.
Marc Berger, Jocelyn Delecourt, Claude Picmal et Roger Bambuc ont-ils gagné?
La première, c'était en 1964, et la deuxième, en 1968.
Quatre hommes pour manger du bâton, ensemble, comme ils disent, pour construire une équipe.
Ça, c'est votre maison,
ça,
celle-là.
Voilà, là où je suis né. Moi, je suis né à cette pièce-là, au fond. Là, il y avait la salle à manger, au fond. Il y a une alcôve, je suis né là.
Voilà. Ah oui.
Oui, oui.
C'est une très jolie maison de village, hein.
Dans cette maison est né le 13 mars 1939 Claude Picmal, athlète. Médaillé olympique, 64 Tokyo, 68 Mexico. Voilà. Mais je faisais déjà de l'athlétisme pour le lycée. Quand j'ai fait les premiers championnats départementaux à Chartres, je me suis engagé dans les 5 disciplines, c'est-à-dire le 100 mètres, la longueur, la hauteur, le triple saut et le 4x100 mètres avec des copains. Et là, on a tout raflé, on a tout gagné. J'étais le roi. Et le lundi, on commençait les épreuves d'atelier pour le, je passais le BEI. Brevet élémentaire industriel, je crois. C'était au niveau du bac technique, à peu près. J'étais tourneur routier. C'est-à-dire, je travaillais dans la métallurgie. Et je suis rentré, donc, en septembre, dans une usine à côté de Paris. J'ai eu la chance, un an après, de rentrer au bataillon de Joinville. Un régiment qui réunissait les meilleurs sportifs de France, parce qu'à l'époque, il y avait la guerre d'Algérie, il y avait des footballeurs, des rugbymen, des escrimeurs et des athlètes. Et moi, j'ai eu la chance ou la malchance, j'étais dispensé d'Algérie. Ce qui m'a permis pendant 28 mois de m'entraîner matin et soir. C'est là où j'ai forgé ma carrière, je pense. Et après le service militaire, j'avais trouvé une place sur concours pour travailler chez IBM. Et j'étais inspecteur machine à écrire. C'est-à-dire, j'entretenais les machines à écrire. Et le soir, là, j'avais aucune heure d'entraînement. Je finissais à 5 heures le soir et j'allais à l'entraînement. Quand je partais faire les matchs internationaux, nous partions en principe le vendredi. Donc, on me donnait la journée. Là, la maison me donnait la journée. On prenait l'avion, on allait sur place. Par exemple, si nous allions en Finlande, on arrivait en Finlande à fin de la matinée. On allait dans l'après-midi voir le stade. Parce que les compétitions se faisaient sur 2 jours. Le samedi, il y avait le 100 mètres et le 4x100, et le dimanche, il y avait le 200 mètres. Alors, si j'étais sélectionné pour les 3 épreuves, en principe, c'est ce qui se passait. Donc, je courais le 100 mètres, le 4x100 le samedi et le 200 le dimanche. Le dimanche soir, il y avait le repas officiel. Et à 5 heures du matin, on prenait l'avion pour rentrer à Paris. Et à 7h, 8h, on était au travail. On m'appelait le nerveux, J'avais un caractère, j'étais un caractère un peu spécial, oui. J'étais tout le temps l'incompris. J'ai l'impression que tout le monde m'en veut. Donc je me bats. On sentait bien que si on voulait une médaille, c'était par le relais. Donc on a travaillé le relais. Un bon relayeur, c'est un gars qui part à la marque, qui prend le témoin dans le minimum de temps. Et pour moi, le relais, c'était vraiment l'équipe. Je faisais ce qu'on voulait que je fasse. Et puis, IBM m'a donné des congés pour aller faire les Jeux de Tokyo. J'ai pris mes congés ce jour-là. Je travaillais, j'ai pris mes congés pendant cette période-là. À Tokyo, on a une médaille. Donc, nous sommes médaillés de bronze. On nous a engueulés parce qu'on n'était pas mieux. Et personne nous a invités. Nous sommes allés manger à nos frais dans un restaurant japonais. 2 ans après, je suis rentré chez Adidas. C'était les débuts d'Adidas en France. J'avais une collection de chaussures et je faisais tous les magasins de sport de la région du Sud-Ouest. Et je m'occupais de 16 départements. À mon point de vue, les athlètes étaient plus connus qu'Adidas à l'époque. Moi, quand j'allais chez un client, je me présentais Picmal, représentant Adidas. « Oh, Picmal !» Et je m'entraînais là où je pouvais. Entre midi et 2 heures, sur le bord de la route, là où c'était un petit peu de marche à faire, je faisais mon fractionné. On me prenait certainement pour un fou. Et là, je faisais des lignes droites en fractionné. C'est des parcours, des distances qui vont de 50 mètres à 200 mètres que l'on fait en un certain temps et que l'on répète. Ça durait environ 1h30 à peu près. Et après, il y a la récupération qui se fait à l'hôtel. Parce que je m'étais dit que je voulais aller jusqu'à Mexico. Je ne voulais pas qu'on m'enlève de l'équipe de France. Je voulais gagner ma place. Mais ça a été très dur, mais je l'ai obtenu. Donc j'ai pu faire les Jeux de Mexico comme ça. Mais Mexico, le village olympique, c'était fabuleux. Quand vous allez dans le club olympique et que vous apercevez tous ces sportifs, quand on voit les Don Cholander, quand on voit les Fosbury, on se dit, mais nous sommes petits. C'est vrai, on est petits. Hein. Donc on admire les gars. Hein.
Et vous vous souvenez de votre arrivée à Mexico ?
Oui, je me rappelle, oui. Je suis rentré dans la zone en tête. Hein, et Bambuc n'est pas bien parti. C'était un grand sportif, mais pour moi, ce n'était pas un relayeur. Il ne pensait qu'aux courses individuelles. Mais malheureusement, le relais a tout fait foirer. On avait déjà eu une médaille de bronze à Tokyo, donc on voulait la médaille d'or à Mexico. On était gourmands. Vous savez, on a été invités pendant presque tous les samedis à des cocktails. On allait boire l'apéritif à l'œil, mais c'est tout ce qu'on avait. Voilà. Mon palmarès s'arrête là, parce qu'à Mexico, le jour où, quand j'ai passé le bâton à Bambuc, ma carrière était terminée. Je n'ai plus couru de ma vie. Et j'aurais aimé être prof de gym, oui, c'est certain. Mais je n'avais pas les diplômes pour, et il n'y avait pas de formation. Je n'avais pas mon bac, et il est un fait que tout ouvrier, à l'époque, c'était pas très bien vu. On s'est entraîné comme on a pu, on ne doit rien à personne, et ça n'a pas de prix, ça aussi.
Et est-ce que vous avez été invité là pour Paris 2024 ?
Pas du tout. Non. J'espère que je serai invité, mais vu ce qui se passe, je ne pense pas qu'ils nous inviteront, parce qu'on ne sert plus à rien. Moi, je dis qu'il y aura davantage d'invités en tant que dirigeant qu'un athlète, voilà. Ouais. Mais ça, moi, j'aimerais être invité. Je sais tout mon souhait, parce que je n'ai pas les moyens de me payer les places au prix Ouessant maintenant. Hein. Mais j'aimerais être invité. Bon, je ne le serai pas, je regarderai la télévision. C'est pas un problème.
Alors là, j'ai fait mes calculs. Depuis 1896, l'athlétisme français compte moins de 100 médaillés olympiques. Plus de la moitié sont morts, ce qui nous laisse moins de 50 athlètes vivants. Qu'il n'y ait pas de place pour l'un d'eux à Paris 2024 est pour le moins étonnant. Que Claude Picmal, 2 fois médaillé olympique, regarde les Jeux de Paris sur son poste de télévision, ce n'est pas seulement triste.
Ça revient à piétiner tout ce que nous vend l'olympisme, l'esprit d'équipe, la générosité et surtout le mérite récompensé. Alors si jamais vous avez une fille, une sœur, un frère ou une mère qui a le pouvoir d'inviter Claude aux Jeux de Paris 2024, n'hésitez pas à nous contacter. En attendant vos nombreux appels, j'ai fait un petit changement de discipline et je suis allée voir non pas une athlète mais une gymnaste pour comprendre ce qui pousse une adolescente à viser la première place.
Je m'appelle Kéla Nemours et j'ai 16 ans, bientôt 17 dans quelques jours là. Je fais de la gymnastique artistique féminine.
Quand Kélia aura l'âge de Claude Piquemal, on sera en 2091. Une date à laquelle on n'est même pas sûr qu'il existera encore des médailles, de l'or ou quelque autre minéral végétal ou animal sur cette planète. Mais ce n'est pas la principale question qui préoccupe Kélia en ce moment. Non. Ce qui l'intéresse, elle, ce sont les JO.
En fait, on travaille toute notre vie pour les Jeux. Et en fait, vu que moi, mes entraîneurs, moi, ma famille, mon club, on savait que j'avais un niveau et que j'avais un potentiel. C'est pour ça qu'on a continué à travailler. Alors, c'est vrai que les Jeux, du coup, c'était un rêve depuis toujours. Enfin, comme le rêve de tous les gymnastes quand elles sont petites. Mais après, c'est devenu un objectif plus qu'un rêve, quoi. Il y a 4 agrès. Donc, les agrès, il y a barre, poutre, sol, saut. Moi, c'est les barres que je préfère. J'ai la chance de savoir me repérer dans l'espace, on va dire. Par exemple, à la barre, moi, je vais sentir si je suis plus près de la barre ou plus loin de la barre. J'ai pas peur, on va dire, de faire les éléments, donc je m'envole, quoi. Quand on est une gymnaste de haut niveau, le corps en soi, il est musclé, il est sec, il est fin. Notre corps, on va dire, il grandit un petit peu, mais on voit, hein, les gymnastes, elles sont presque toutes petites. En fait, ça nous retarde la croissance, les règles. Mais en tout cas, moi, ça va. Je suis pas trop petite et je suis pas trop grande. Je fais 1m60, donc en vrai, je suis normale. Mais c'est vrai que pendant ma période du confinement, vu que je m'étais arrêtée, c'est là où j'ai grandi. Sinon, j'étais petite.
Et les règles, elles arrivent à quel âge alors quand on fait la gym?
Ce sera après la gym, je pense. Quand on aura arrêté. Parce qu'en fait, on fait tellement de sport intense que c'est quand on arrêtera en fait que ça arrivera. Moi ça m'arrange. Je connais des filles qui les ont et c'est pas cool. En 2021, je me suis fait opérer des genoux parce que j'avais un problème de croissance, donc c'est pathologique. Enfin, c'est une ostéochondrie, donc je pense pas que j'aurais pu me blesser le genou. Mais c'est que je commençais à avoir des douleurs, et en fait, du coup, on allait faire des examens, et on est allé voir le médecin. Et en fait, il nous a dit, tu peux continuer comme ça, mais c'est vrai que pour les Jeux, tu risques d'avoir encore plus mal, parce que ça va s'aggraver encore plus. Et du coup, j'ai eu 8 mois d'arrêt. C'est vrai que moi, j'avais l'habitude, du coup, de faire tous les jours la gym, plusieurs fois par jour, depuis que je suis toute petite, et donc là... Quand on m'a annoncé que j'aurais autant de repos, enfin, j'étais triste, j'étais en colère, mais je me suis dit, pourquoi je fais la gym pour les Jeux? Donc, vaut mieux le faire avant les Jeux que après les Jeux ou que pas du tout. L'opération, elle s'est très bien passée. Après, j'ai pas posé le pied. Il me semble que c'était 6 semaines sans poser le pied. Puis après, j'ai fait ma rééduc, kiné, et voilà. Il y a eu un petit souci avec la Fédération française. Le médecin de la Fédé n'a pas voulu me donner l'autorisation à moi de reprendre alors qu'il m'avait même pas ausculté en fait. Donc j'ai pas eu l'autorisation, donc je pouvais pas faire de compétition. Et au bout d'un moment, j'allais pas rester sans faire de compétition. Enfin, 2 ans après, il y avait les Jeux.
En fait, suite à un désaccord entre la Fédération française de gymnastique et les entraîneurs de Kélia, la Fédération ne l'autorise pas à reprendre la compétition. Et, vous l'aurez sans doute compris, Kélia est dans une course contre le chrono de sa puberté. Si elle doit attendre les Jeux Olympiques suivants, en 2028, elle aura 20 ans. Et 20 ans pour une gymnaste, c'est déjà un peu trop vieux. Pour ne pas rater le rendez-vous de 2024, Kélia a donc adopté une stratégie singulière pour une gymnaste.
donc c'est là que j'ai décidé de changer de nationalité et de faire ma première compète en octobre. Donc j'ai accepté de faire partie de l'équipe algérienne. Puis vu que mon père il est algérien, je sais pas qui a eu l'idée, ma mère, enfin mes parents ou les entraîneurs, mais je sais qu'ils se sont mis d'accord et moi aussi j'étais d'accord, donc voilà, ça s'est fait. Bah mon père il est né en France, bon, sa maman était algérienne et son papa algérien, du coup il est 100% algérien mon père, mais en fait je crois qu'ils ont déménagé en France. Après il a rencontré maman, etc. Voilà, du coup on est 50-50. Je sais pas combien de fois il est en Algérie, mais pas beaucoup, je crois. Donc il nous parlait pas vraiment de l'Algérie. Et il me disait, ah, elles vont dire quoi, les filles en France et tout. J'avais pas peur, mais je me disais, qu'est-ce que ça va se dire, quoi, en France. Et j'étais un peu déçue, parce que bah, la petite, moi petite, voulait matcher sous les couleurs de la France, voilà. Et bah ça me paraissait, ouais, j'avais un peu peur d'y aller, etc. Mais du coup je sais qu'on m'avait annoncé que j'allais faire ma première compétition au championnat arabe à Oran. Donc bah j'y suis allée, c'est là que j'ai rencontré du coup les filles à l'hôtel. On avait dormi dans un super hôtel, franchement il était vraiment bien, 15 minutes de la salle, je dirais, de la salle de compétition. Ouais, c'était très cosy. C'est vrai que les filles là-bas s'entraînent pas beaucoup. Elles doivent s'entraîner 15-20 heures par semaine. Moi, je m'entraîne 30 heures par semaine. J'ai un niveau plus élevé. Mais en fait, on pouvait tous mutuellement se rapporter des choses. Et surtout que bah, du coup, moi, j'avais une équipe. Et pour moi, c'est une chance dans ma gym quand même. Sans ça, j'aurais peut-être même pas pu refaire de compétition. Donc, je sais pas où j'en serais. Donc, voilà.
Et les tenues et tout ça, c'est les mêmes ?
Non, du coup, on a des justes au corps. Et en fait, ça change en fonction aussi de chaque équipe. L'équipe de France, on parle même justo que les gymnastes de l'équipe américaine ou que de l'équipe algérienne. Enfin, on a chaque pays a un justo différent. Moi, c'est mes justos préférés, c'est la marque GK. Souvent, c'est ma mère qui les choisit. Elle rajoute des strass, elle change la couleur, elle met des petits trucs et tout. En fait, c'est presque ma mère qui dessine les justos. À chaque fois, ça me plaît trop et tout le monde dit « Ouais, ton justo était trop beau et tout. » Et du coup, je dis « Ouais, c'est ma mère qui l'a fait. » Non, j'adore. Vraiment, ils sont trop beaux, ils brillent des mille feux, j'adore. Donc, j'ai fait les championnats d'Afrique avec elle et les championnats arabes. Et après, du coup, bah, les championnats du monde, c'est individuel cette année. J'ai décroché mon ticket au monde et maintenant, c'est sûr que je vais aux Jeux. Donc maintenant, l'objectif, c'est plus les Jeux. Maintenant, c'est une belle médaille. Je vise la médaille d'or, oui, au bar.
Faut être précise, précise, précise. C'est comme ça que tu vas monter la note. Moi, je n'exclus pas, Kélia, je n'exclus pas que tu frôles les 1 point de faute. Hein. Je n'exclus pas que ça puisse arriver.
Et je passe ma vie dans la salle de gym. Donc forcément, j'ai pas une adolescence comme les autres, mais franchement, c'est pour me dire, par exemple, moi je vais aller aux Jeux Olympiques, peut-être avoir une médaille. Je préfère ça que me dire d'aller à une fête le soir, ou enfin, voilà. Et puis de toute façon, je sais qu'après la gym, bah, ça m'aura appris plein de choses, la détermination, le travail, enfin la force, hein, plein de choses.
Au championnat du monde 2023, Kélia décroche une médaille d'argent au bar asymétrique. De toutes les athlètes que vous avez entendues depuis le début de cette série, elle est la seule à être sélectionnée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais ce qui m'a le plus fascinée chez elle, c'est son indifférence à l'égard de son changement de nationalité. Pour tout vous dire, ça m'a même heurtée. Et puis, je me suis dit que c'est peut-être ça, être une franco-algérienne d'aujourd'hui. Ne pas accorder plus de valeur à une rive de la Méditerranée qu'à une autre. T'as déjà réfléchi à si tu gagnes une médaille, si c'est l'hymne de l'Algérie qui est retentie ?
Bah oui, c'est vrai que je pense que tout le monde se voit un peu sur la première marche avec son hymne et tout, et ça doit être tellement bien. Ça doit être incroyable d'être sur la première marche, d'entendre l'hymne national de son pays et voir les gens dans les gradins et tout. Ça va être trop bien.
C'était le deuxième épisode du Revers de la médaille, une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Somaya Dabesh. Épisode 2, les athlètes sont des bons élèves comme les autres. Mixage d'Ali Yaha, musique Gilles Lavanant. À suivre tout de suite le troisième épisode.